Là, on a acheté des graines, 3 variétés différentes. Ces variétés ont des caractéristiques différentes. Et donc là, on les a semées d'abord dans des plaques alvéolées, puis repiquées en godets, puis plantées directement dans le sol un mois plus tard. Donc la procédure a été mieux maîtrisée depuis l'achat des graines jusqu'à la plantation. Et ce qui fait qu'on a eu un meilleur résultat aussi sur la récolte. La culture a été irriguée par goutte à goutte, donc un apport d'eau régulier, sous serre, c'était parfait.
Anan Bouzidi-Somi avec Penaï Traoré, à retrouver ce samedi à partir de 13h10, temps universel, dans l'émission Un jour au village. Il est 5h43 ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI.
À suivre, reportage à Agadir au Maroc. On pousse les portes du plus vieux magasin de disques de la ville. 58 ans d'existence et un fils qui succède à son père à la tête de ce véritable trésor musical. Vous l'avez suivi ces deux derniers jours sur RFI. La visite d'État en France du président angolais João Lourenço. Retour sur les principaux sujets évoqués avec le chef de la diplomatie angolais, Tété Antonio. Il est notre invité. Le monde en question également. On parle de la situation à Gaza à deux jours du retour de Donald Trump à la Maison Blanche, mais tout de suite le journal des sports. Bonjour Baptiste Leduc.
Bonjour Nemo, bonjour à tous.
Du football avec la sixième et dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions, avec ce samedi un des rares matchs en jeu pour la qualification en quart de finale.
Oui, parce que les jeux sont faits dans la plupart des groupes, mais dans le groupe A, il reste du suspense pour la deuxième place derrière Al Hilal Omdurman, déjà qualifié. C'est le Mouloudia d'Alger qui est second, un point devant les Tanzaniens des Young Africans, chez qui les Algériens se déplacent ce samedi, avec donc tout à gagner ou tout à perdre, hein, c'est selon. Un nul peut suffire, mais ce n'est pas ce que vise l'entraîneur tunisien du Mouloudia, Khaled Ben Yahia. Il est au micro de Sofiane Anani.
Ça va être un match d'une intensité et d'adversité de bon niveau, que ce soit pour nous, pour Mané Léon. Ça va être un match très difficile, compliqué à jouer, que ce soit sur le plan tactique ou sur le plan technique. Donc, on ne pense pas que on va jouer le match nul ou on va essayer de faire de jouer et de faire le nécessaire pendant 90 minutes. Je crois qu'on a les moyens de se battre dans ce match et le résultat va venir tout seul avec notre serrure, notre abnégation et notre façon de jouer.
Le coup d'envoi de Young Africans Mouloudia, c'est à 13h en temps universel. Dans le même temps, le tout-puissant Mazembe, déjà éliminé dans ce groupe, tentera de sauver l'honneur contre les Soudanais d'Omdurman.
Du tennis, Baptiste, et cette déception pour Ons Jabeur, la Tunisienne éliminée au troisième tour de l'Open d'Australie.
Et pourtant, elle n'est pas passée très loin de l'exploit contre l'Américaine Emma Navarro, huitième joueuse mondiale. Ons Jabeur s'incline en 3-7, 6-4, 3-6, 6-4. Ça coince encore pour la Tunisienne dans le grand chelem de Melbourne. Chez les messieurs, c'est pas mal là ce qui se passe pour Gaël Monfils, qui résiste bien à Taylor Fritz. Une manche partout, deux jeux partout dans la troisième manche.
Et puis du handball, deux victoires en deux matchs pour l'Égypte au Mondial. Les Pharaons verront le tour principal.
Après l'Argentine lors de la première journée, les Égyptiens ont tranquillement dominé Bahreïn, 35 à 24 ce vendredi à Zagreb en Croatie. Une première mission accomplie, l'ailier droit Mohamed Sanad est satisfait au micro de Marco Martins.
C'était un match très important, t'es concentré et on savait que Bahreïn, c'est une bonne équipe, c'est une équipe qui joue très agressive, très rapide. Et même si on n'a pas fait la différence au début, mais on a maîtrisé le match, quoi. On savait quoi faire, comment faire. Et petit à petit, ça arrivait, on a tenu le match. Et final, victoire, bien. Et ça nous permet de déjà avoir deux points dans le tour prochain. Maintenant, il reste un match pour finir première de notre poule. Et on va tout donner pour ce match.
Comment ça va être face à la Croatie, ici, à Zagreb?
Oui, ça va être un match énorme, avec une ambiance incroyable. On sait très bien, le public aussi, ils sont fous, ils vont mettre le feu tout le match, c'est une très bonne équipe et après nous aussi on est une très bonne équipe, donc ça va être la guerre, quoi.
Ils sont prévenus, les Pharaons, ils seront bien reçus. Égypte-Croatie aura lieu ce dimanche.
Merci Baptiste Leduc, on vous retrouve tout au long de la matinée pour les sports sur RFI.
RFI, toute l'actualité, Nemo en piste.
Les principaux titres de ce samedi 18 janvier 2025, J-1, avant le début du cessez-le-feu et la libération des premiers otages. Après le cabinet de sécurité, le gouvernement israélien a donné son feu vert final à l'accord avec le Hamas. Les otages seront libérés par petits groupes. Il y aura d'abord 3 femmes en principe ce dimanche. Les détenus palestiniens seront aussi relâchés progressivement. 150 dès demain. L'accord prévoit aussi le retour des déplacés gazaouis dans le nord de l'enclave. Pendant ce temps, l'armée israélienne a poursuivi ses frappes aériennes sur le territoire palestinien, faisant plus de 100 morts depuis mercredi selon les secours palestiniens. J-2 cette fois, avant l'investiture de Donald Trump aux États-Unis. La cérémonie aura lieu en intérieur à cause du froid polaire qui s'abat sur la capitale fédérale, Washington DC. Joe Biden, lui, prend ses dernières mesures avant de passer la main. Il protège des sites naturels, il met en place des prix plafonds pour certains médicaments. Le président sortant, qui commue par ailleurs 2500 peines de prison pour des délits non violents liés à la drogue. Et puis, TikTok annonce qu'elle fermera dimanche aux États-Unis à moins d'une intervention du gouvernement. La Cour suprême américaine a refusé hier de suspendre la loi qui interdit la plateforme aux États-Unis, sauf si son propriétaire chinois accepte de la vendre. Tout de suite sur RFI, le reportage Afrique. Au Maroc, dans le sud du pays, précisément à Agadir, où l'on ouvre les portes du plus vieux magasin de disques de la ville, Record Zaman. Il a vu le jour en 1967 et près de 60 ans après, c'est le fils du fondateur qui a désormais repris le flambeau. Amin Akdim, 30 ans, à la tête de ce trésor musical aux milliers de vinyles et cassettes, dont certains sont très rares. Quand le magasin ferme ses portes, Amine poursuit sa passion et développe une activité de DJ. Il s'emploie à numériser des enregistrements rares de musique yéménite, soudanaise, égyptienne et bien sûr marocaine. À Agadir, le reportage de François Humfer Kataji.
Situé au centre du vieil Agadir, le magasin fait à peine 20 mètres carrés, mais il paraît beaucoup plus grand. Du sol au plafond, des vinyles allant des années 40 à aujourd'hui décorent les murs et garnissent les étagères. De Billy Oceans à Ray Charles, en passant par AC/DC ou Farid El Atrache, on retrouve tous les styles. Amin Akdim a repris le magasin de son père en 2017.
In the store you can find some music.
Dans ce magasin, vous pouvez trouver de la musique d'Inde, de la musique classique égyptienne, de la musique du Brésil, du hip-hop marocain, du funk, du disco.
Assis à son bureau au centre de la petite pièce, il collecte et classe toute cette musique sur son ordinateur. Il est fier de sa collection unique de musique arabe.
Je veux conserver cette mémoire au Maroc. La plupart des gens ne voient la musique marocaine que comme de la musique traditionnelle. Mais il y a de la musique électronique, du groove, de la disco. C'est ce que j'essaye de partager avec les gens dans le monde.
Parmi ces milliers de vinyles et ces centaines de cassettes, quelques perles rares.
And I keep it for myself.
Maintenant, je les garde pour moi. C'est un trésor. Ça coûte très cher. Il y a vraiment une différence entre les éditions originales et les rééditions. Et puis pour moi, ça me rappelle mon père.
D'une valise bien cachée à l'arrière du magasin, il sort un vinyle du groupe de rock engagé des années 70, Nassel Khiwan.
Regardez, il a été disque d'or en 1973.
Ou encore, un album d'Ossibiza, le groupe britannique d'afropop des années 70, formé par des Ghanéens et des Caribéens. Mais ce qui le passionne le plus, c'est la musique enregistrée dans les studios de Casablanca dans les années 70.
Il y a Izenzaren, c'est un groupe berbère des années 70 très connu. Ils ont sorti leur album à Casablanca.
En plus de numériser et classer cette musique, Amin Akdim est également DJ. Il collabore régulièrement avec le collectif français Radio Flouka pour remettre au goût du jour toute la diversité de la musique marocaine. François Humfer Kataji, de retour d'Agadir, RFI.
À Agadir, il est 5h51. João Lourenço a mis fin à 2 jours de visite d'État en France pour la refermer. Le président angolais a pris part hier à un forum économique au MEDEF après avoir rencontré jeudi son homologue Emmanuel Macron. Renforcement des consultations sur les enjeux régionaux et internationaux, situation dans l'est de la RDC, processus de Luanda, partenariats économiques entre Paris et Luanda, présidence angolaise de l'Union africaine, les sujets évoqués ont été nombreux. Retour sur ces 2 jours avec Tété Antonio, chef de la diplomatie angolaise. Il est l'invité de Pierre Firsion.
Tété Antonio, bonjour.
Oui, bonjour.
Et quels sont les axes forts du partenariat entre la France et l'Angola? Vous diriez qu'ils sont économiques et diplomatiques ?
Oui, tout à fait. Nous sommes en train de parler en marge d'un forum économique où les entreprises françaises et angolaises vont pouvoir se parler et auquel le président Joao Lourenço a lui-même tenu de participer. Ça, c'est le volet économique. Le volet diplomatique, nous avons parlé des questions régionales, surtout les questions des conflits en Afrique.
Justement, sur le volet diplomatique, on sait que le conflit dans l'Est de la RDC a été au centre des discussions jeudi entre les deux présidents. Qu'est-ce qu'il s'est dit concrètement ?
Bon, qu'est-ce qui s'est dit ? C'est pouvoir faire en sorte que la dynamique enclenchée par le processus de Luanda continue.
Mais alors concrètement, comment faire pour relancer ce processus de Luanda ?
Bon, mais il faut que nous continuions à travailler avec le parti, ne pas surtout jeter l'eau et le bébé. Je parle de certains acquis que nous avons eus pendant les négociations de Luanda entre ministres, du point de vue des points difficiles qui gênent en tout cas la relation entre les deux pays et la paix à l'est de la RDC, dont la question de retrait de force et la question de neutralisation de FDLR et la question du M23, qui sont les trois questions principales qui ont été objet de négociations et où on a fait des progrès sur la question entrée au retrait de force, y compris de force du Rwanda, de la RDC, la neutralisation de FDLR. Ces acquis que nous avons atteints doivent faire en sorte qu'on puisse les consolider pour pouvoir trouver un résultat, un consensus sur les questions qui restent. Et ça, on peut le faire à plusieurs niveaux. Et là, on était déjà au niveau des chefs d'État, parce que nous croyons que quand les ministres sont bloqués, c'est bien les chefs d'État qui doivent les débloquer.
Alors justement, comment permettre de relancer la discussion entre les chefs d'État ? Quels sont les moyens que vous avez de votre côté pour essayer de favoriser le dialogue ?
On ne va pas inventer la roue. On n'a qu'un seul moyen, c'est de parler. Ce que nous prenons, c'est le dialogue.
Mais alors le dialogue, pour dire quoi et pour quoi faire concrètement ?
Mais pour trouver des solutions, c'est ce que je viens de dire. Je viens là de citer des questions sur lesquelles on a avancé. Il y a une question qui bloque jusque-là, c'est justement la question du M23. Et donc c'est celle-là, c'est ça le hic qu'il faut chercher à résoudre. Si on peut aller plutôt à une table de négociation, plutôt que de faire la guerre pendant plusieurs années pour revenir à la même table, autant prendre les raccourcis.
Le problème autour du M23, c'est quoi concrètement ?
C'est clair, il y a une partie qui veut et qu'il y ait un dialogue direct. Il y a un autre qui pense qu'il faut que ça passe par un processus, dont celui de Nairobi. Donc, il y a ces différences d'opinion. Il faudra trouver un moyen pour pouvoir rapprocher le point de vue, c'est ça.
Et une rencontre entre les deux présidents vous paraît possible à court ou moyen terme ?
Je n'ai jamais trouvé de l'impossible. Entre les hommes, comme on dit, il n'y a que les montagnes qui se rencontrent jamais. Les hommes, toujours. Et nous continuons à croire que quand les conditions se réunissent, les chefs d'État peuvent se rencontrer.
On parlait là du conflit dans l'Est de la RDC. Le continent est également touché par une autre terrible guerre au Soudan que personne ne parvient à arrêter. L'Union africaine semble comme absente de ce dossier-là aussi. L'Angola va prendre la présidence de l'Union africaine le mois prochain. Comment l'organisation peut-elle parvenir à faire entendre sa voix sur ces dossiers, Tété Antonio ?
Le président Lourenço, dans tous ses discours, que ce soit à l'Assemblée générale, il a exactement utilisé la même expression, que c'est le conflit du Soudan, dont on ne parle pas assez. Et il n'a jamais raté une occasion pour le faire. Le président Lourenço a dit dans un de ses derniers discours qu'étant président de l'Union africaine, il va consacrer une attention particulière à la question du Soudan. Nous pensons que c'est une situation que nous ne devons pas continuer à regarder sans pouvoir agir. Et cette action, évidemment, on ne peut pas être isolé à l'Afrique. C'est le monde qui doit regarder aussi le Soudan.
Une dernière question. Donald Trump sera investi lundi président des États-Unis. Quel regard portez-vous sur son retour au pouvoir ?
En ce qui concerne l'Angola, nous disons que nos relations, ce n'est pas des relations entre personnes, c'est des relations entre des États. Nous avons une relation avec l'Amérique que nous voudrons bien continuer à développer, quel que soit le président qui est aux États-Unis. C'est une relation avec l'Amérique que nous regardons.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre.
Merci.
Tété Antonio au micro de Pierre Firsion. Entretien à retrouver sur l'application RFI Pure Radio. La fin de cette demi-heure avec le monde en question. Nous sommes désormais à deux jours de l'investiture de Donald Trump aux États-Unis. Et ce qui semblait impossible est en passe de se réaliser. La situation à Gaza semble pouvoir se débloquer après 15 mois de guerre. Cyril Payen, comment expliquer cette percée diplomatique ?
Fallait-il que les menaces de Donald Trump, il avait promis l'enfer si les otages n'étaient pas libérés avant son retour au pouvoir, ait été l'argument qui aura décidé ou contraint le Hamas à Gaza, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, mais aussi les négociateurs américains, qatariens et égyptiens à coûte que coûte trouver une solution pour la libération des otages israéliens et un cessez-le-feu. Il est vrai, en tout cas, que de l'avis même des très nombreux contempteurs du milliardaire populiste, on s'accorde à saluer ce qu'on appelle déjà l'effet Trump. Pour autant, c'est dans les détails, c'est bien connu, que se cache le diable, et Trump, l'homme d'affaires, expert en deals expéditifs, ne s'embarrasse pas des détails. L'accord de cessez-le-feu de cette semaine, qui tient sur 5 pages, est à l'identique ou presque de celui proposé il y a de longs mois, en mai 2024, par le président Joe Biden. Et il est truffé de ces fameux détails qui peuvent à tout moment faire capoter le processus.
Oui, parce que Cyril, l'accord comporte 3 phases qui sont censées se succéder.
Annoncé dans la précipitation de la pression maximale et inédite exercée par l'émissaire pour le Moyen-Orient de Trump, le promoteur immobilier Steve Witkoff et son homologue de l'administration démocrate, l'accord recèle de nombreuses incertitudes. La phase 1, qui doit commencer dimanche si tout va bien, doit s'étaler sur une très longue période de 6 semaines, à raison de 3 otages libérés par semaine en l'échange de 1 000 à 1 600 palestiniens et l'entrée de quelques 600 camions contre 70 aujourd'hui d'aide humanitaire dans un Gaza transformé en charnier à ciel ouvert, un Gazaoui sur 10 tué ou blessé en 15 mois, enfants et femmes pour les 2/3. Rien ne peut indiquer à ce stade que les 2 phases suivantes, fin des libérations d'otages puis début de la reconstruction, ne relèvent pas du vœu pieux et de l'hypothèse, alors que la reprise de l'offensive, au terme de la phase 1, est dans les exigences de l'aile suprémaciste de la coalition Netanyahou, mais aussi et surtout si le fameux effet Trump n'agit plus sur cette région du Proche-Orient.
Et pour parler de reconstruction très hypothétique, bien sûr, les défis sont immenses.
La bande de Gaza, territoire mutilé, connaît un taux de destruction tel que le processus pour rebâtir est, selon les experts onusiens, le plus grand défi auquel la communauté internationale ait été confrontée depuis la Seconde Guerre mondiale. 70% des bâtiments résidentiels sont rasés et des dizaines de millions de tonnes de débris se sont accumulées. Le coût de cette opération s'élèverait à 50 milliards de dollars d'après les premières estimations, une reconstruction qui prendrait plusieurs décennies.
Le Monde en question avec Cyril Payen ce samedi, c'est à retrouver sur RFI.fr, 5h59 ici à Paris. Le prochain point complet sur l'actualité africaine, c'est dans une demi-heure avec Arthur Ponchelet. Dans moins de 30 secondes, le début des RFI Matin, vous retrouvez Julien Coquel-Rouem.
Le goût du monde, Clémence de Navy.
Pendant des millions d'années, les hommes ont dû, pour survivre, chasser et cueillir ce qui, selon les saisons, pouvait se faire le ventre vide. Nos assiettes mondialisées, nos modes de vie nous rendraient malades. L'évolution nous aurait-elle dessinés pour jeûner? Et si le jeûne avait des effets bénéfiques sur notre santé? Le jeûne, ce dimanche, à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde, avec Clémence de Navy sur RFI et aussi en podcast sur RFI.fr.